Voilà, on peut démarrer Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom, Boker Tov, Shavuot Venechamot. On est aujourd'hui le 29, vendredi 29 du mois de mars, et donc le 19 du mois de
Adar.
Bet. Pas toi, hein, Adar. Alors pour ce matin, nous avons un shiur qui a été acheté pour l'élévation de l'âme de Roland, Tzion, Ben Myriam et Mordechai, de la part de ses quatre filles, Hashem Vrechotam Be'ezrat Hashem, pour un papa exemplaire, protecteur, un grand homme qui a réussi à avoir un rôle à l'Assemblée nationale pour aider et sauver son peuple, comme pour empêcher de faire des autopsies, par exemple, qui est intervenu Kol HaKavod, c'est une grande mitzvah, que leur papa prie pour ses quatre filles et qu'il les protège avec une grande refouah shlema pour Atzadika, Nathalie, Rachel, Yafa, Bat, Chava et Chaya, Bat, Sheva. Et aussi aujourd'hui, l'askara de ta maman, je crois, c'est Sarah bat Esther. Il y avait un autre nom?
Hadra bat Myriam.
Hadra bat Myriam. Shimon ben Raphaël.
Non, Shimon Raphaël ben
Chaim. Shimon ben
Raphaël
ben Chaim, Be'ezrat Hashem. Ok. Et bien sûr, une grande hatzacha pour vous tous en vous souhaitant un excellent Shabbat. Et on ne peut pas commencer sans souhaiter, bien sûr, un grand mazel tov à la famille Naomi, Aaron, Adjej, Be'ezrat Hashem, pour la bar mitzvah de leurs merveilleux enfants, Yaakov, Zachary et Ayakar. Ok, on commence au premier shiur de la journée avec une grande question. Où est Dieu? Est-ce que Dieu... Alors, Maurice, tout à l'heure, disait « Dieu ne peut pas disparaître ». Ben justement, le mot employé dans la Kabbale et dans la Torah, c'est que Dieu disparaît. Pourquoi? Parce qu'il a créé ce monde. Comment on dit le monde en hébreu, Maurice? Olam, d'accord. Et pourquoi on l'appelle Olam? Parce que la racine du mot Olam vient du mot Ne'elam. Et ça veut dire quoi Ne'elam? Disparaître. Dieu a créé le monde et il s'est retiré du monde. Il ne s'est pas retiré parce qu'il n'avait pas où aller. Hein. Il s'est retiré tout simplement pour laisser la vie grandir. Car quand Dieu est présent, plus rien ne peut bouger. Quand la Torah a été donnée au Sinaï, d'accord, Dieu s'est dévoilé. Qu'est-ce qui s'est passé? À Kol Ishtatek. Il y a un silence total. Les oiseaux n'ont pas osé voler, les mouches n'ont pas osé buter. Les abeilles n'ont pas osé butiner, le monde est réduit, il n'y avait même plus d'air. Comme ça, c'est marqué, l'atmosphère s'est consolidée, d'une certaine façon, on respirait, mais tout s'est bloqué face à Hachem, comme c'est marqué, mais nous, il n'y a pas d'âme. Le jour où, quand on est dans le corps, ouais, de toute façon, Dieu m'a fait ça, j'aurais de quoi lui répondre. Quand on est devant Dieu, on n'a plus rien à dire. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a créé la complétude. Il l'a créé, donc qui il est lui, au-dessus de la complétude. Ce qui fait que, pour laisser vivre la vie, Dieu est obligé de ce qu'on appelle créer un halal. Et c'est très curieux parce que le mot halal veut dire espace en hébreu, halal. Mais on peut le retrouver dans plusieurs exemples de la femme enceinte qui, par exemple, va créer un halal pour laisser la poche, l'eau amniotique et l'enfant se développer à l'intérieur. Donc elle va créer un vide et bizarrement, contre toute attente, l'enfant grandit. L'enfant grandit dans sa mère, mais il y a une personne qui ne voit pas du tout. C'est très curieux. Ben, c'est sa mère. Il l'entend, il est dépendant d'elle, il se nourrit par elle, d'accord ? Son humeur va intervenir sur son bonheur ou pas, et tout est à l'intérieur. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'il ne peut pas voir sa mère. Pourquoi ? Parce qu'il est en elle. Ainsi, exactement, l'explique Ramchal, le créateur du monde, c'est comme une femme enceinte. Nous sommes à l'intérieur d'un univers extrêmement complexe, et en réalité, nous sommes dans la matrice. Donc il y a au-dessus quelque chose qui nous nourrit, qui est Zanum Farnes Lakol, comme on le dit, Zanum Farnes Lakol. Mais on est tellement à l'intérieur d'un microcosme qu'on ne peut pas voir Dieu. Cette situation, pourquoi, quel rapport avec le mois de Nissan? Parce que ça a été le sujet de tous les Hébreux qui disaient Dieu nous a abandonnés. Il y a 80% des Hébreux qui disaient t'es rachat, t'es comme les Égyptiens, tu violes. Tu fais du mal à l'époque de l'Égypte, Ken, on parle de l'esclavage égyptien. Tu es mauvais, tu fais de la sorcellerie. Plus tu es pourri, plus tu deviens grand et réussi dans tout ce que tu fais. Et plus tu es bon, plus tu es gentil, plus tu es généreux, plus tu fais attention, plus tu te préserves et plus tu prends des coups de fouet. Parce que je ne vous parle pas d'actualité, hein, c'est un jeu de mots, bien sûr. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi? Il y a marqué Géoula Rishona, Géoula Harona. Tout comme on est sorti au mois de Nissan, on sortira au mois de Nissan. Tout comme on l'a vécu, on le vivra. Mazotomeret, il y a eu ce qu'on appelle Astarat Panim, qui est très connu dans la Chassidoute, que le Rabbi Nachman a beaucoup utilisé, entre autres. Astarat Panim, c'est-à-dire que le créateur du monde va disparaître. Ça veut dire quoi ? Va disparaître, pas minastam que Pourim précède Pessah, c'est qu'il va se déguiser derrière des masques, on ne pourra pas le voir. On ne pourra pas déceler que Hachem, il est derrière ces scènes théâtrales que la vie va nous produire. À un tel point que on va se poser des questions en se disant, bah regarde, je mange pas cachère, je fais ce que je veux, je me marie avec qui je veux, j'aime qui je veux, où je veux, comme je veux, et il se passe rien. Bien au contraire, bien au contraire, non seulement il se passe rien, mais tout peut très bien aller pour moi aussi. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez probant. Le Rav Dessler, Eliyahu Dessler, Alav Shalom, écrit dans Mirtav Eliyahu que ce sera la dernière épreuve la plus dure de toute la fin des temps. C'est la Emouna Bastarat Panim. C'est ce qu'il y a de plus dur au monde. De continuer à vivre en tant que juif, que par un seul fil qui te tiendra à la fin des temps, c'est l'abstraction de la pensée sur Dieu. Ça veut dire, à la fin des temps, il faudra être le plus bête au monde pour pouvoir le mieux vivre au monde. Tu comprends ce que je veux dire ? Toutes les personnes intelligentes vont souffrir à la fin des temps. L'intelligence ne rentre pas dans la possibilité de bien vivre. Surtout à la fin des temps. C'est pour ça que les Chachamim ont dit, dans Massechet Sanhedrin, j'espère ne pas être vivant à la fin des temps. J'espère ne pas être présent. Je ne veux pas vivre cette période. Pourquoi ? Trois Chachamim. Sauf deux, dont un, Rav Yosef, qu'est-ce qu'il dit ? Ben moi, je veux bien y être. C'est normal. Pourquoi ? Il est aveugle. Et moi, je ne vois rien, donc il n'y a pas de problème. Donc, Mazot Omeret, il est aveugle. La Gemara nous dit, Iver, Hachouf, Ke, Met. C'est-à-dire, quelqu'un qui est aveugle, considéré comme mort. Ça veut dire que le seul qui demande à vivre réellement à la fin des temps, c'est celui qui dit, de toute façon, moi, je vois rien, je suis comme mort. Ça veut dire qu'il va falloir tuer la chokhma à la fin des temps. C'est pour ça que le roi David a écrit dans le 111e Télim, 10e verset, que le début d'intelligence, c'est Réchit chokhma irat Hashem. Ce verset-là, il est dans l'absolu rendez-vous de la fin des temps. C'est-à-dire que si on doit travailler quelque chose d'extrêmement important à nourrir dans notre émouna, c'est la crainte du ciel. Et c'est quoi la crainte du ciel ? C'est quoi la crainte du ciel ? Pas de question. Pas de question, pas de question. Malheureusement, tous ceux qui ont pensé, vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire, mais tous ceux qui ont pensé sont morts en Égypte, tous ceux qui n'ont pas pensé sont passés. Je vous donne deux exemples connus. Le premier, la mer Rouge. Quand on regarde la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont commencé à réfléchir. On retourne en Égypte. On part en galoute. Tu vois, ça n'existait pas plus hier. Hein. On retourne en galoute. Et c'est qui a dit ça ? Davka, les religieux. C'est les Lévim, si tu veux savoir, ceux qui étudient la Torah. Et qu'est-ce qu'il a dit l'autre ? Il a dit, ben, on va se taper. L'armée, on fait ce qu'il veut, on va se taper. C'est comme quoi que l'histoire se répète, quand même. Ça, encore. Il y en a qui ont dit, Yéhouch, on va se suicider. Et tu avais les autres qui ont dit, on va prier. Qu'est-ce qu'il leur a dit à quelques jours ? Arrêtez de penser, punaise, avancez ! Vous vous rendez compte ce qu'il dit ? Daber, El Ben Israël, Veissaou, mais où tu veux qu'on y aille ? Annule ton intellect. Annule ton intellect. Arrête de tout le temps réfléchir pour Dieu. Ne t'inquiète pas, tu as une promesse d'Hachem qu'on arrivera à la ligne finale. D'abord, Bitoul. Où est-ce qu'on voit le deuxième exemple du Bitoul Sechel ? Incroyable. Arba banim dibra Torah. Echad, racham, echad, racha, echad, tam, echad, shenu yad el shol. Tu as remarqué là-bas qu'on a quatre caractéristiques qui sont reliées à l'intellect. Et celui qui ne sait pas, ad, petahlo, quand est-ce que la Torah va nous dire, maintenant tu peux commencer à penser, quand tu es sorti du pays d'Égypte, pour raconter ce qui s'est passé en Égypte, maintenant mets en route ton intellect. Mais pour sortir de la galoute, il faut arrêter de penser. Pour sortir de la galoute, il faut juste avancer, chaque jour. Parce que si, dans un domaine rationnel, aujourd'hui, je me pose des questions sur ce qui se passe, le monde entier est avec nous, on devrait peut-être chercher à s'installer sur la Lune demain, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on peut aller. La situation est complètement folle. C'est un truc de fou, ce qu'on est en train de vivre. C'est un truc de malade. Et la reine, on a envie de dire, mais Hachem, pourquoi tu ne fais pas justice ? Alors, bien sûr, tout le monde connaît très, très, très bien cet exemple hein, qui a été utilisé et réutilisé, mâché et remâché. C'est l'histoire du professeur qui donne l'examen final à ses élèves. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une classe, qui, comme toi le sais, quand il y a un examen final, l'examen le plus important, qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà, vous entendez ce silence ? C'est exactement ce qui se passe. Il y a tout simplement un silence de mort. Mais, bizarrement, contre toute attente, toute l'année, le professeur est derrière sa chaire. D'accord ? Il est derrière son bureau. Et de son bureau, il observe toute la classe. Sauf pendant un moment. Il y a un seul moment où le professeur, la chaise est vide, il n'a jamais été aussi proche de ses élèves. C'est bizarre, non? Quand tu es proche de tes élèves, je ne parle pas du professeur qui se lève pour dire à son élève, voilà, c'est ça et ça le truc. Mais à un moment, le professeur, il passe et il repasse. Pourquoi est-ce qu'il passe et il repasse? Parce qu'il y a un examen à passer. Et ce qui est très curieux, c'est que quand le professeur passe, on ne regarde pas, on ne parle pas avec lui, on est sur sa feuille. Et quand on regarde la chaise, elle est vide. Mais il est où, lui? Il est juste à côté de nous. Il regarde si on est capable de réussir notre examen. Il regarde si on ne triche pas. Ce qui fait que plus l'absence divine se fait ressentir, et plus Akadosh Baruch Hu n'a jamais été aussi proche de toi qu'à ce moment-là. Une fois de plus, la fameuse question a été posée, comme pour la Shoah, comme pour le 7 octobre. Il était où, votre Dieu? Il était avec les gens qui sont morts le 7 octobre. Où était votre Dieu quand ces femmes se sont faites violer? Il était violé avec ces femmes. Le professeur est proche de son peuple. Ce que je vous dis, ce n'est pas de moi, c'est marqué tout le matin, vous le dites. Bechol tzaratam lo tzar. Tout ce que vous subirez, dit Dieu, je vous promets que je le mettrai sur moi. Moi aussi, je serai violé avec vous. Moi aussi, je subirai cette tension. Moi aussi, je subirai cette injustice. Pour que les enfants d'Israël se prennent la tête, on retourne en galoute, on veut rester, on veut se battre. C'est répétitif. Je perds de temps avec ça, les maîtres. C'est répétitif. Je peux donner des centaines d'exemples historiques dans ce domaine. Des centaines d'exemples. Des centaines d'exemples. D'ailleurs, un exemple très connu qui est venu à la suite, c'est Ken.
Le problème, c'est que, si je puis dire, on projette sur Dieu ce qu'on vit nous-mêmes.
Oui. Et alors?
On ne sait pas ce qu'il ressent, ce qu'il fait, etc. On imagine des choses parce qu'on n'est pas en face d'une véritable réalité.
Alors, je vais te répondre quelque chose qui était une réponse. Je vais te répondre quelque chose. Écoute bien. Ta fille vit à combien de kilomètres d'ici? 15
000.
15 000 kilomètres.
12
000. À ce prix-là, elle est 20 000. On s'en fout. Elle ne te voit pas.
Mais,
tu viens de répondre. Je savais, elle me l'a dit. Vous avez FaceTime, vous voyez, mais pourtant, elle ne te voit pas physiquement. C'est exactement ce qui se passe avec Hachem. Tu es au courant de tout ce qui se passe. Elle te raconte. Et quand elle n'est pas bien ou il y a quoi que ce soit, tu n'es pas bien. Quand elle est malade, tu pries. Merpat lecha, elle a 12 000 kilomètres. C'est ta fille. Si un homme comme toi qui aime sa fille, qui est au courant de tout et qui ressent ce qu'elle sent quand elle est heureuse, tu es souriant. Quand elle est malheureuse, tu t'inquiètes. Pas plus forte création, le créateur du monde. Ce que tu vis, Dieu le vit. Est-ce que ça veut dire que la distance te sépare vraiment d'elle? Tshuva ilo. Seulement quoi? Pour l'instant, bientôt, comme elle me l'a dit, bientôt la Alia. Si Dieu veut. Tu comprends ce que je veux te dire? Bientôt viendra le moment d'Alia. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est Giloui Shrina Bedorenu. Donc, on est avec Rabbi Nachman dans ses enseignements. Nekuda no sefet katou bagada. Va avarti beres mitzrayim balayla azé. Quand est-ce que le créateur du monde s'est dévoilé? Balayla azé, cette nuit-là. Ani velo malach, moi et pas un ange. Ani velo saraf, moi et pas un ange de feu. Ani velo shaliach, moi et pas un envoyé, un messager. Ani Hachem, moi-même. Ani hu, velo acher, moi et pas l'autre. Qui c'est l'autre? Perusha davar, contrairement aux forces occultes, les forces du mal qui ont des pouvoirs que Dieu leur a donnés, ani velo acher, c'est une allusion aux forces du mal. Il faut faire très attention, comme d'ailleurs hier j'en discutais avec une personne qui fait beaucoup de dons, beaucoup de recettes, qui est toujours prêt à aider. Et je lui ai dit, je vais te poser une question, mais sois très très franc avec moi et réfléchis bien avant de me répondre. Tout ce que tu fais comme bien, tu le fais pour Dieu ou pour toi? Il m'a dit pour moi. Ça s'appelle Acher. D'abord, c'est très honnête de sa part, c'était hier soir. Il m'a dit, non, tu as raison, tout ce que je fais, je le fais pour moi. Ça me fait du bien d'aider, j'aime aider. D'accord, mais elle est où la mitzvah? Elle est où la mitzvah d'aider? Tu ne dois pas aider parce que tu aimes aider, tu dois aider parce que c'est une mitzvah d'aider. Parce que si demain, tu n'aimes pas la personne, alors tu ne vas pas l'aider. Tu vas selon tes sentiments, tes ressentis. Ça, c'est pas juif. Ça peut être n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas besoin de recevoir la Torah au Arsinaï pour être ainsi. C'est là. C'est stupide. La reine mitzvah, mitzvah vachem. Hein? Ça doit être l'ishma, l'ishem shamaï. Exactement. D'ailleurs, cette question-là, elle doit se poser à tous les niveaux. Tous les niveaux. Je ne veux pas m'élargir sur le sujet, mais c'est un sujet vraiment prenant et intéressant. L'Éternel lui-même est réellement descendu. Moi, la vérité, j'ai un problème avec ça, qu'on va résoudre. Mais Dieu est descendu avec 3280 anges. Déjà, c'est marqué noir sur blanc. Il a envoyé Moshe Rabbeinu, donc il y avait un messager, oui. Il y avait des anges, oui. Il y avait des séraphims, oui. Il y avait même un ange de la mort, oui. Bon, alors pourquoi il dit qu'il est pas, il les a pas envoyés? Vous avez compris la question? Qui a sorti les enfants d'Israël? Dieu ou Moïse? Moi, j'ai vu Moïse, hein. Excuse-moi, tu n'as pas vu le film? Toi, tu dis que c'est Dieu. Non, c'est pas la question. Commence pas à tricher. Qui a sorti les enfants d'Israël? Moshe Rabbeinu, Omar, on va pas commencer à jouer sur la souris. C'est Moshe Rabbeinu qui est sorti, non? Vous n'avez pas vu Charlton Heston avec sa montre quand il a... Léon Brunner qui lui court derrière, non? Ça tombe bien, j'ai plein de réponses, disait-il.
Il envoie toujours quelqu'un. Il envoie un Mashiach, il envoie un Moshe, il envoie toujours. Alors que lui, il peut tout faire.
Alors, c'est une bonne question que tu poses. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il toujours besoin d'envoyer Elion et Vizachor Letov ou Féli, un ange, dans le 13e chapitre de Shoftim? Il envoie à Manoach, plutôt son épouse, la mère de Shimshon, il envoie un ange. Pourquoi pas lui? Eh bien, parce qu'un verre de 50 millilitres ne pourra jamais contenir 10 litres d'eau. Ce qui fait que si Dieu se dévoilait lui-même, il y aura un débordement de l'âme qui exploserait l'âme du juif. C'est pas la mienne. Madoua, Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Yarad Mitzrayim. Donc, la question qui peut se poser ici, pourquoi Hachem est-il descendu lui-même en Égypte? Madoua lo lishuach malachim. Et pourquoi pas envoyer des anges faire le travail? Agada makdishim lanu et anikuda azot. Et dans l'Agada, on nous spécifie cette question-là. Ok? Katou basperem makdoshim shima malachim ayu yordim leotzi etam Yisraël Mitzrayim azam malachim ayu nitmeim betumat Mitzrayim. Et donc, quand on va nous dire ça, pourquoi est-ce qu'on nous dit, en fin de compte, que ce sont les anges, il y avait Moshe Rabbeinu, Nachon, et Dieu dit non, c'est moi. C'est l'histoire de la plume et de l'écrivain. Quand on écrit un très beau texte, qui l'a écrit? La plume ou l'écrivain? La plume, elle dit que c'est elle. La plume dit que c'est elle. Donc, qui a écrit? Donc, l'auteur. L'éphéméride. On n'a jamais vu, on remercie la plume d'avoir écrit ce livre. C'est ce qu'il dit à Hachem ici. J'ai pris des plumes, donc les anges, j'ai pris Moshe Rabbeinu, j'ai pris les séraphims, j'ai pris l'ange de l'avant, j'ai pris ce que tu veux. Okay? Mais je suis obligé, moi, d'écrire l'histoire. Parce qu'on a vu que dans la Torah, contre toute attente, les hommes peuvent écrire l'histoire du judaïsme, comme l'a dit Rabbi Yehoshua, Kajouchou, Lo Bashamayim I. Ne te mêle pas Hachem depuis qu'il nous a donné la Torah, c'est à nous maintenant de fixer les lois. C'est le Sanhedrin, c'est la majorité qui fixera les lois. Même si Dieu n'est pas d'accord, on va selon la majorité. C'est connu. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a des initiatives qui peuvent être prises où la plume elle-même va écrire l'histoire. C'est ce que Dieu attend d'ailleurs de la fin des temps. C'est-à-dire qu'il serait temps que l'enfant sorte du Yupala et qu'il apprenne à marcher de par lui-même son indépendance. On a vu que c'est très risqué. On a vu que, par exemple, le prophète Samuel a pris l'initiative de dire à Élie, mais t'entends pas que Dieu il te parle, il avait juste 2 ans, il a fait « être Hayav Mita » parce qu'il a contredit son rave, « Zahassour, Hayav Mita ». On a vu que Moshe Rabbeinu a pris l'initiative de briser l'étape de la loi. Personne ne lui a demandé. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il a pris une initiative. C'est important de prendre des initiatives. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est d'avoir entendu Ben Gourion qui, un matin, se lève et dit « Écoutez, ça fait 1 an que vous avez promis l'indépendance d'Israël. Je déclare l'indépendance d'Israël à Tel Aviv. » Il prend une initiative. Merveilleux. C'est merveilleux de voir des gens qui vont prendre l'initiative et écrire eux-mêmes l'histoire. Donc, ce qui fait que même si, quelque part, il va décalquer une écriture déjà préinscrite, il y a quand même lieu de comprendre qu'il y a une plume, sauf pour l'Égypte. L'Égypte, ce que vient nous dire ici, alors décide, c'est les gens, c'est Moshe ou chez toi, Hachem? C'est qui? Réponse, dans cette histoire-là, j'ai pris la plume du début à la fin. C'est moi qui ai pris la plume. La question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'initiative qui soit venue du monde d'en bas? Pourquoi Dieu a besoin de nous dire dans la Gada, Anivelo Malach, Anivelo Saraf, Anivelo Shaliach, Ani Hachem, Ani ou Velo Acher? C'est moi et personne d'autre. Réponse, dans l'enseignement de Rabbeinu, il dit, car si Akadosh Baruch Hu n'avait pas pris donc la plume pour écrire cette histoire, les anges eux-mêmes en Égypte se seraient corrompus et seraient devenus impurs. Tellement, Sage Malachim Ayu Nitmaim et Tumat Mitzrayim. Les anges eux-mêmes seraient devenus impurs. Cholim Chazal, et nos sages posent la question, Ech Malach Yachol Itame, Betumat Mitzrayim. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un ange qui est spirituel aurait pu se rendre impur? Aré Malach En Yetzerara. On sait que le Yetzerara n'est pas chez l'ange. Le Rav Dessler, donc ramène ici le Rav Dessler, dans Mirta Veliaou, Masbir, Shakavana I, Shalom Malach Mitzad Atzmo Yanitma. que pas l'ange lui-même, dit le Rav d'Esther, se serait rendu impur. Et là, Shanitma Benaim Shelanu, mais qu'il se serait rendu impur par nos yeux à nous. Ça veut dire que l'ange qui vient nous chercher à Malach HaGoel Otimikolra, il aurait vu le monde par nos yeux à nous, et nos yeux étaient impurs. Ma perusha d'abord, Beres Misraim Aya Yetzerara Gadol Meod Shelavodazara. Le Yetzerara était si puissant en Égypte, comme à la fin des temps. Vous savez qu'on appelait cette métropole qui était l'Égypte le pays de la connaissance. Vous savez ça? C'était le pays de la connaissance. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre certaines règles qu'on peut retrouver aussi chez les Mayas, certes. Pas que les pyramides. Il y a énormément de choses. Le sphinx, les pyramides, les sciences qu'ils avaient étaient très, très, très avancées. Et l'Avodazara, là. Hein?
La géométrie
n'est en Égypte. L'âme Israël a yachakwa mok betoch avodazara. Il faut savoir que les Hébreux pratiquaient l'idolâtrie à un très haut degré. C'était vraiment quelque chose de naturel d'avoir des statues à la maison et autres. Imayu yordim alachim l'eretz mitzrayim. Et donc, si les anges étaient descendus dans les maisons des Juifs, azam alachim ayu megalim kedushim kedusha bemitzrayim azam alachim ayu megalim kedusha mitzrayim aval etzerara aya kol kach chazak sham Israël ayu roim et amalachim veomrim nachon amalachim meod marchimim aval Zé Adaïn, l'Osiba, la Azov et Eretz Mitzrayim. Et là, je ne sais pas si vous rendez compte, la réponse du Rav d'Esther, elle est terrible. Le Rav d'Esther, il dit que c'est vrai que les anges auraient été impressionnants, mais pas assez face à l'Avodazara d'Égypte. Ça veut dire que les forces démoniaques en Égypte, les démons étaient tellement présents qu'ils étaient plus impressionnants. Toi, Darabba. Qu'ils étaient plus impressionnants que les anges envoyés par Dieu lui-même. Quand on entend ce genre de choses, ça fait peur. Le côté démoniaque, c'est, d'ailleurs, c'est ce que quelqu'un m'a dit. Il m'a dit, j'ai des problèmes de sorcellerie. J'étais voir un grand rab et il n'a rien pu faire. Alors, je suis parti voir un sorcier. Un marabout, ils sont à bout. Mais il est parti voir un grand sorcier. Et je lui dis, alors, il m'a dit, il a pu... C'est-à-dire que des fois, les forces du mal vont être plus présentes. Et là, on voit que le Rav d'Esther dit qu'en Égypte, c'était le cas. Ça veut dire que les forces du mal étaient plus probantes que les forces du bien. C'est-à-dire, même si tu vois la Géoula, tu dis, bah, ça... On l'a vu, la mer Rouge, la manne, le puits de Myriam, le Har Sinaï, avec tout ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on a dit? On retourne en Égypte. C'est très dur. L'addiction de la galoute est quelque chose de très dur que seul Dieu pourra nous enlever. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme retirer les globules rouges du sang ou les globules blancs. C'est quelque chose qui était en nous. En Égypte, l'assimilation était dans le sang. On l'a emmené avec nous dans notre sang. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas séparer de nous. Et cette Égypte-là, dans lequel vous n'avez pas encore compris, elle est encore en nous jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous posez la question pourquoi est-ce qu'on parle encore de l'Égypte de nos jours, c'est parce qu'elle est encore en nous. Il aura fallu attendre 3500 ans pour être capable de retirer la galoute du juif. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est encore en nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore séparé à l'image de la dialyse, l'assimilation de cette Égypte. On est sorti avec l'Égypte en nous. C'est important de le savoir. Manitou le disait d'ailleurs toujours. Hein. C'est une de ses phrases fétiches. Il est plus facile de sortir le juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Parce qu'on l'emmène avec nous. On a du mal. Et on a toujours la critique de ce qui ne nous convient pas. D'ailleurs, en toute franchise, pour éviter de faire du lachonara dans notre pays, entre nous les juifs, il faut arrêter de penser. En cas où vous n'avez pas compris, il faut arrêter de penser. Il faut dire Gamzol et Tova à tout ce qui nous arrive. Tu donnes de la chaleur, de l'amour à quelqu'un, tu l'ouvres ta maison. Le mec, la seule chose qu'il a à dire, c'est de te critiquer. C'est dur. Tu as envie de lui dire, va crever. Mais tu peux pas. Pourquoi tu es juif? Il faut être gentil. Il faut être bon. Ouais. Seulement, tu peux pas être bon tout le temps dans un sens. Et à un moment, ça doit être réciproque. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'avec le temps, tu ne connais pas vraiment les gens. C'est dur. Parce que tu dis, alors quoi, comme ça, on est entre juifs. Encore une fois, des sortes de contrats entre nous, comme ça. Faire travailler des gens sans contrat. Arrêter de travailler sans contrat, rabotail. Après, vous dites, mais je ne comprends pas, alors ils me volent, je fais un bed-in. Faites un contrat avec clause, qu'est-ce qui a marqué, dans quel cas ceci, dans quel cas cela. Tu vas au bed-in, tu n'as pas de contrat, alors c'est ta parole contre la sienne. Chaval, que Bémet, on ne fait pas ce qu'il faut. En tout cas, Nachon Shamalachim et Od Marchimim, il est certes évident qu'un ange peut laisser perplexe une personne qui le verrait, mais Zeloa Dain Tsiba, la Azov et Teres Mitzrayim, mais les anges eux-mêmes n'auraient pas été une raison suffisante pour les Hébreux qui avaient l'Égypte qui coulait dans leurs veines de quitter le pays d'Égypte. Bidjou karcha vigia tsaga khadasha le kair alors nous rotim lire ototav. Alors moi j'ai une question à poser, j'ai un gros problème avec ce qu'il dit ici. Lequel? Ben, si tu dis que c'est Dieu lui-même qui est parti les chercher, d'accord, les chercher c'est Dieu lui-même, d'accord, c'est ce qu'on dit. Alors pourquoi 80% sont quand même restés? C'est-à-dire que Dieu lui-même n'a pas suffi. C'est un problème. Alors, il y a une réponse à ça, bien sûr. C'est que, je vous donne maintenant la réponse, comme ça on ne va pas avancer stable. Une réponse puissante et énergétique. Ben, c'est que quand Akadosh Baruch Hu est venu chercher les Hébreux, ceux qui étaient trop ancrés dans l'Égypte sont morts. Tout à l'heure, Meir a posé la question, bah, pourquoi Dieu lui-même il n'est pas venu les chercher? Bah, le problème, c'est que ça a tué 80% des Hébreux, qui sont morts de honte. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Quelle est la septième plaie d'Égypte? On n'a pas le temps, les sauterelles. D'accord? Comment la Torah définit la plaie des sauterelles, hormis le fait qu'elles aient dévoré toutes les récoltes? Comment la Torah définit cette plaie? C'est la plaie de l'obscurité. C'est marqué noir sur blanc. La plaie des sauterelles, c'est marqué dans la Torah qu'elle est la plaie de l'obscurité. D'un coup vient la neuvième plaie d'Égypte. Et comment on appelle cette plaie? La plaie du Rocher. La plaie de l'obscurité. Tout de suite, nos chachamim, nos sages, entre autres dans le livre Imrechem, ils disent, oh, je ne comprends pas, la plaie du Rocher, elle a déjà eu lieu. Puisqu'il y a marqué la terre Charcolaret, toute la terre, était dans l'obscurité la plus totale, tellement il y avait des trilliards, de billiards de sauterelles qui ressemblaient à des aigles, qui crachaient du feu, ce que tu veux. C'est vraiment Robin Hood. On est dans, vraiment, quand tu vois ce qui est marqué dans les commentaires, à quoi livrer le Kim Chaim, je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Ils avaient des pattes d'aigle, ils avaient des trucs. C'est bizarre, quoi. C'est pas des sauterelles conventionnelles. Hein. Des têtes de lion, des pattes d'aigle, c'est quand même pas mal comme sauterelle. Intéressant. La plaie du Rocher, ben, elles étaient tellement nombreuses qu'elles ont fermé comme une boîte toute l'Égypte. Ce qui fait que personne ne voyait le soleil. Donc ils étaient dans l'obscurité, tu ne pouvais pas bouger, elles étaient trop nombreuses. Et si tu les touchais, tu mourrais. Alors, il faut décider. Réponse de nos Chachamim. Parce que la plaie de l'obscurité n'était autre que le dévoilement de la lumière du premier jour. C'est-à-dire que la plaie de Rocher, c'est tout simplement le dévoilement de la lumière Vayehi Or. Et pourquoi il marquait Vayehi Or? Vehaya Or. Parce que Vayehi, c'est l'échon Shlili. Quand tu dis Vayehi, il fut lumière. Et quand tu dis Vaya, lumière, en hébreu, c'est la même chose au niveau de la traduction. Vaya, Vayehi, c'est la même chose. Quelle différence? La Gemara nous dit, Vayehi, en général, c'est négatif. Quand tu dis Vaya, c'est positif. Vaya, Mishamoa. Tu veux du bonheur? Écoute ce que j'ai à dire, dit Hachem. Vaya, Mishamoa. Ok, eh bien, la lumière du premier jour, c'est le plus grand bonheur qui existe, mais c'est le plus grand malheur des Rechaïm. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas résister à cette lumière, ils brûlent. Ils brûlent de quoi? Ils brûlent d'amour et ils brûlent de honte. La honte est très, très, très présente quand Dieu se dévoile. Tu as honte d'exister, mais tu as surtout honte d'avoir désobéi à Dieu. Et quand Hachem s'est dévoilé, ben, donc on voit qu'il s'est dévoilé. C'est-à-dire que si on pose la question... Alors, il n'a pas envoyé les anges parce qu'ils ne seraient pas sortis du pays d'Égypte. Alors, tu dis, alors Dieu, pourquoi toi, tu ne les as pas fait sortir du pays d'Égypte, les 80%? Ben, le problème était là. C'est qu'on a rentré 10 litres d'eau dans un 50 millilitres. Ça a débordé. L'Anéchama a explosé à l'intérieur du corps pour rejoindre son créateur. C'est-à-dire, ils vont tous être réincarnés, ne vous inquiétez pas, dans la génération qui va rentrer en Israël, derrière Hagav. Ils vont à chaque fois se réincarner, cette génération. Car nous avions besoin de quoi? Du Gilou Shrina. Mais pourquoi on a tellement tardé pour avoir le Gilou Shrina, c'est-à-dire le dévoilement d'Ashrina? Réponse très simple, on ne la demandait pas. Donc quelle est la phrase, professeur fétiche, de la Géoula? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on demande selon ce qu'il dit ici Rabbeinu? Demandez Hachem. Demandez Hachem. L'oya Gilou Shrina. Ben, on t'appelle pas, bon, t'as pas besoin de moi alors. Tout le but de l'Égypte est de faire comprendre que Dieu ne pourra pas te sauver, que t'as pas où aller, que le poste que tu occupes d'être un serviteur, c'est le top, d'être un juif de galoute, en d'autres termes. T'es un juif de galoute et tu peux pas être autre chose que ça. d'introduire dans la tête de la personne qui n'a pas le droit d'être une nation libre sur sa terre. Lui mettre ça dans sa tête à lui.
Demander ma chair, c'est demander
Hachem. Oui, d'une certaine façon. Mais il y a mieux à faire que demander ma chair, c'est demander Hachem. Mashiach, c'est le maillon qui mène au dévoilement de Dieu. C'est-à-dire que la Gemara pose la question, à savoir pourquoi Dieu est-il passé par Moshe Rabbeinu. Ben, on a vu, quand il a donné les deux commandements, qu'est-ce qu'ils ont dit de l'enfant d'Israël? Hachem prend un micro pour parler parce qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça que les rabbanim, quand les gens bêtement par ignorance disent, ça c'est les hommes qui ont écrit, c'est comme si tu dis, ça c'est le micro qui chante. Quand tu entends une personne, tu enlèves le micro, tu l'entends plus. Il met le micro, tu l'entends. Qui chante, le micro ou lui? C'est lui. Les rabbanim ne sont que les micros d'Hachem. C'est le micro, c'est celui qui fait passer la voix d'Hachem. C'est ce qu'on appelle Da'at Torah. Il ne va pas parler de ce qu'il pense personnellement. Il n'y a que Da'at Torah. Mais attends, Da'at Torah, c'est ce que ça veut dire. Shivim panim la Torah, pardes ba Torah. Même là où ils ne sont pas d'accord, les anges.
La Haggadah n'a pas d'auteur. Il compile de plusieurs enseignants.
Oui, mais malgré tout, c'est bizarre que tu dis ça, parce que là, oui, tu as raison. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a qui disent que c'est des déotes, c'est des opinions. Il y en a qui disent que Béhémet, la Haggadah, elle a été chantée telle qu'on la connaît par les enfants d'Israël, sauf les kétotes de Maaseh Berabi, ça oui. Mais la Haggadah de Pessah, on la retrouve où? Je crois qu'elle est toute dans Parashat Kitavo, si je ne m'abuse. On la retrouve Midoraita, la Haggadah de Pessah. Les principaux points. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Après, elle a été codifiée au fur et à mesure. Mais avant, comment on racontait? Quand la Marbelle et Sabbat de Tzraïm, Rez Meshubar, les Chachamim, à l'époque de Hillel et Shamal, Shmaya et Aftalion, ok? Aftalion. Même avant eux, à l'époque de Shmuel, comment on faisait la Haggadah de Pessah? Comment nous, 40 ans dans le désert, on a fait la Haggadah de Pessah? On racontait réellement de père en fils ce que nous avions vécu en Égypte. Parce qu'il est impératif d'avoir un point de naissance pour comprendre son existence et son identité. C'est impératif. Je donne un exemple qui est un peu difficile, mais quand tu es né en France, tu es français, que tu le veuilles ou pas. Un touriste arrive en France, il est là pour 3 mois maximum, il n'a pas de visa. Mais son fils est né aux États-Unis, il est américain, automatiquement. Il est né sur le territoire, donc il a cette Teudat Zehout. Le problème, c'est que nous, on est né en Égypte. Donc, il y a toujours un Égyptien dans le juif. Après, on fait la Alia. On va monter de cette nationalité pour grandir de façon indépendante. C'est le mariage où l'enfant quitte la maison paternelle pour aller, maternelle plutôt, pour aller vivre avec sa femme. Donc qui est la femme du peuple, la terre d'Israël, comme c'est marqué dans la Gemara. C'est là. Maseret Kelim. Donc comme ça nous disait Chachamim pour finir, que en réalité cette situation, elle est très compliquée parce que si on ne demande pas Dieu à la fin des temps, si on ne veut pas travailler pour Hachem, si on ne demande pas papa, comme par exemple un père est fâché avec son fils, parce qu'il entend qu'il parle du mal de lui, que tout ce qu'il lui a demandé, il ne le fait pas, et ainsi de suite. Et puis, il voit que le téléphone, il sonne, papa, réponds-moi, papa, réponds-moi, papa, réponds-moi. Papa, tu commences à me manquer. Papa, je t'aime. Papa, je te demande pardon. Alors, au fur et à mesure de demander papa, à quel jour se dévoile. Mais ce dévoilement, il prend des risques. Et il comprend des risques. C'est que d'un côté, on découvre que papa, c'était le roi. Tu sais, il y a quelqu'un... qui est décédé il y a, je crois, 4 ans. Et les enfants n'ont pas pleuré la perte de leur père, quoique oui, mais ils ont surtout pleuré le fait d'avoir entendu tellement de témoignages de gens qui étaient présents et qui ont raconté combien leur père était un homme exceptionnel. Eux, ils passaient leur temps à critiquer leur père. Ouais, de toute façon, tu donnes rien, t'es rien, tu fais rien. Il était juste gabaye d'une synagogue, il ne le savait pas. Tout l'argent qu'il donnait, qu'il gagnait, il le donnait à des familles, il aidait toute la journée les gens. Il étudiait tous les matins la Torah, ils n'ont jamais su de leur vie. En fin de compte, ils se sont rendus compte après sa mort, au fur et à mesure de témoignages, que Bémet, cet homme qui était leur père, était mais un mérite pour eux. Et je me rappelle qu'un des fils, qui d'ailleurs lui-même est parti plus tard de la maladie, a dit « Mon plus grand malheur, c'est pas d'avoir perdu mon père, c'est pas l'avoir connu. » C'est exactement ce qui risque de nous arriver vis-à-vis d'Hachem. Vous vous rendez compte qu'au petit niveau dans lequel nous sommes, nous jugeons Dieu tout le temps. Je ne comprends pas Dieu, pourquoi, alors qu'on ferait mieux d'apprendre à le connaître. Parce que le jour où il se dévoilera, ce sera un sacré choc émotionnel pour chacun de nous. Après, le Créateur du monde, ce n'est pas qu'il disparaît, c'est qu'il est obligé de disparaître pour nous laisser exister Pour deux raisons. La première, c'est que sa présence pourrait nous exploser. Et la deuxième, parce que Dieu veut de son fils une indépendance où le père est recherché par son fils. C'est-à-dire, qui me recherche parmi vous? Qui me veut parmi vous? C'est ça? Prenez par exemple un des exemples qui me fait le plus de peine, que je comprends, je ne juge pas, j'explique. Ces fameux Minagi maintenant, très bien, c'est joli hein, ce qu'ils font. C'est mieux que rien, on va dire ça comme ça. Dieu t'a emmené jusqu'à la choupa, t'as enfin trouvé l'amour de ta vie. Ok? Et on fait séparer les dents jusqu'au poisson. C'est extraordinaire. C'est après le poisson, Dieu se barre. On demande à Dieu de sortir de la salle. C'est bien. Ah, écoutez, Rav Tutu, c'est déjà pas mal ce qu'on fait. T'as raison. Et Chaz et Shalom, ici, tu dis, ben voilà, ben moi jusqu'à là maintenant, tu me retires au poisson, je te retire ta femme. Matin au maire. Ah non, tu me la laisses. La main. Arrête, ma volonté, c'est que ce soit séparé. Parce que jusque-là, je te veux avec moi. Après, je veux pas que tu sois avec moi. Enfin, reste, hein, si tu veux. Je te demande pas de partir. Hein. Mais la question est de savoir comment on veut Dieu. Et vous verrez que Bezrat Hashem, la Géoula nous promet que quand tu auras le dévoilement divin, Vatimalares de Hashem, l'univers, le monde entier sera rempli de la connaissance de Dieu. Vous savez, c'est quoi connaissance de Dieu? Ça veut dire que partout où on ira, partout où on s'assiera, partout où on étudiera, partout où on se rencontrera, partout où on voyagera, on sera avec Hashem à côté de nous. D'être capable de vivre avec Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande preuve d'amour et de crainte du ciel que nous puissions avoir. Je vous donne un exemple bête et stupide. Imagine, c'est qui ton rav fétiche? Ton symbole? Le rav Ovadia Yosef. Imagine maintenant que le rav Ovadia Yosef, il est assis à côté de toi ici. Tu vas aller au bureau, il est assis au bureau à côté de toi. Tu vas à la maison, il est dans le salon avec toi. Comment tu vas parler avec ta femme? Comment tu vas te comporter? Comment tu vas réagir à table? Comment? Avec exemple. Pourquoi? Parce qu'il est là. C'est exactement là qui est tout le problème. C'est-à-dire que quand tu viens, pourquoi est-ce qu'une des choses que Dieu déteste le plus au monde, et que Dieu nous soigne de cela, ce sont les chants qui fautent s'éteindre, c'est-à-dire cacher des yeux des hommes. Pourquoi Dieu, avec eux, il a un problème personnel? Il dit parce que des hommes, tu te caches et de moi, tu ne te caches pas, alors que je suis à côté de toi. Parce que si je me retire de toi, tu meurs. Parce que ce qui fait battre ton cœur et l'alliage de tes molécules qui forment la matière, c'est moi qui les maintiens. Donc, quand tu m'emmènes dans tes fautes, par exemple, le matin, tu vas à la synagogue, le soir, tu vas dans un pub ou une boîte de nuit, tu m'emmènes avec toi dans la boîte de nuit. Parce que si je te laisse tomber, tu crèves. Ce qui fait que quand tu fais des mariages mélangés, tu forces Dieu à danser avec toi du rock'n'roll. Alors qu'il est le roi des rois. Imagine la honte quand il va se dévoiler après. Regarde où tu m'as emmené.
Mais s'il nous accompagne.
Hein?
S'il nous accompagne partout, vous
dire. Mais il est obligé de nous accompagner partout. Quand on dansait pendant Shabbat Kodesh, le jour de Simchat Torah, tu crois qu'il était où, Dieu? Avec un Bouddha à droite, un taureau à gauche, sans faire d'accusation, c'est un état de fait. C'est filmé, c'est pas moi qui l'ai fait. Pendant Shabbat Kodesh, il était où Hachem? Il était avec eux. C'est-à-dire qu'on l'a pris avec nous. Akadosh Baruch Hu nous a promis de ne jamais nous laisser tomber. Parce qu'un père, comme il dit, souvent il y a des gens qui disent Dieu m'a laissé tomber. C'est impossible, tzadik. C'est toi qui as laissé tomber Dieu. Tu connais la fameuse histoire de l'enfant qui est sur les épaules de son père. Papa m'a abandonné. Je sais parce que je vois que deux traces derrière. Et le père lui dit, mon fils, c'est pas que tu vois, c'est les miens parce que toi, tu es sur mes épaules. Ben, ça, très mal, kanfe necharim. Dieu ne nous a jamais abandonné. C'est nous qui l'avons abandonné. C'est nous qui refusons de le voir. C'est nous qui. C'est sûr, je vais te dire un truc. Hein. Hier, j'avais un shalom bayit. Écoute bien. Ta discussion. Je dis à la femme, bon, tu gagnes à l'auto en fin de compte, tu le quittes. D'un coup, ouais. C'est bizarre. Un shalom bayit, tu gagnes à l'auto? Ouais, ouais. Et Marie me dit, ah oui, c'est un gain à l'auto demain. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil. Est-ce qu'on veut Dieu ou on veut un loto? Vous comprenez ce que je veux dire? Un loto suffira amplement. Hein. J'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai mes gosses, j'ai de l'oseille, j'ai pas besoin de Dieu. J'ai la santé, j'ai pas besoin de Dieu. Donc qu'est-ce que va faire Hachem pour qu'on puisse le demander? Il nous met de plus en plus dans l'insécurité financière, santé, shalom bayit, sécuritaire, la totale. Il y a des manques jusqu'à ce qu'on dise « Elle a nous l'échelle, elle a plus chemin. » C'est-à-dire que quand est-ce qu'un fils s'appelle son père, eh ben, le jour où il apprend qu'à la banque, en réalité, tout ce qu'il tire avec sa carte, c'est parce que son père le mettait à la banque. Qu'est-ce que fait le père? Comme il voit que son fils ne t'appelle pas du tout, il arrête de lui envoyer de l'oseille. Et du coup, Kraut Rabbi, allô maman, bobo, allô, Efoata. Et je vais donner un exemple du Ben Ishraï, je finirai avec ça pour ce chiot, que je trouve très important personnellement. C'est ce que dit le Ben Ishraï. Ben Ishraï dit que la pire chose qu'on puisse faire à Dieu, c'est de l'appeler pour Elle va accoucher, il faut prier. Il est malade, il faut prier. Il va avoir mitzvah, il faut prier. Il va se marier, Dieu vient. Il est mort, on appelle Dieu. Faire des prières, hein. Problème financier, hein. Il a une mauvaise nouvelle, attention, il a les impôts sur le dos. Il dit, oh, c'est pas un valet, Dieu, c'est le roi. On l'appelle quand je suis dans la mise, exactement, ou quand ça m'intéresse. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ce qui fait que il faut remettre Hachem à sa place et de le servir nous. C'est à nous de le servir. Enfin, il y a une grand-mère qui m'a dit, ça va te faire un peu sourire. Je dis, pourquoi vous ne priez pas Hachem? Elle dit, je ne veux pas le déranger. Je trouve ça... Bon, Dieu veut qu'on prie. Hein. Il a créé le vide pour qu'on prie. Mais j'ai trouvé cette réponse tellement naturelle du cœur d'une grand-mère. Elle m'a dit, non, moi, je n'ose pas le déranger. Bon, si tu viens soigner peut-être une voisine à côté, tu penses à moi, tu me soignes Hachem. Juste sans te déranger, juste tu fais un petit aller-retour. C'est lui le roi. Mais on ne vit pas ça. Dieu, j'en ai marre, je ne comprends pas, j'en ai ras-le-bol. Encore un truc, j'enlève mon kissouille, j'enlève ma tsniout, je mets plus les tefilines, je fais plus Shabbat, je comprends pas, j'ai tout donné, j'ai rien reçu. Oh, oh, calme-toi, calme-toi, zesrout. Si tu donnes et que tu reçois rien, c'est que tout est gardé pour le monde futur, et ne t'inquiète pas, tu mourras un jour pour le voir. Si c'est ça ta question. Zéperoucha d'abord. Pour lequel le créateur du monde, en disparaissant, ou l'impression que tout est injustice, il nous laisse deux choses à développer. Un, période d'examen, le mérite de la foi. Et la deuxième chose, le mérite de le rechercher. Recherche Hachem, dans ton étude, dans tes relations, dans chaque juif y a Hachem. Tu peux le retrouver. Si tu es dans Ve'av Talerea Hakamocha, et que tu es au-dessus de la bêtise et de la méchanceté de l'autre, parce que les gens sont méchants aujourd'hui. Je n'ai pas honte de le dire, les gens sont méchants aujourd'hui. On est méchants entre nous. Les maîtres. On a beau être face à face, à lui, ça va, en deux secondes, tu te vexes. Ton meilleur ami peut devenir ton pire ami en un jour. Ton meilleur client peut te planter parce qu'il a travaillé. Tu peux donner ta race à la synagogue, toute ta vie, aller y trouver mieux ailleurs, même pas au revoir. On est méchants. On est vraiment méchants entre nous. Je parle des humains, je ne parle pas des juifs. On est méchants entre nous. Tu vois, pour passer en voiture, je te bloque, je ne te laisse pas passer. Tu prends une place de parking, le mec il se garde devant comme ça, ben, je vais t'apprendre. Et si c'était ta voiture à ton frère, tu lui refais ça? Non, parce que tu l'aimes et là tu l'aimes pas. Je vous dis que, comme dit Rabbeinu Nachman ben Fegasruto et Ganon Kalam Israël, combien on a de la chance d'avoir sa Torah. Le Rabbi Lubavitch, combien on a de la chance d'avoir sa Torah. Behemet, cette Torah de Chassidut, que c'est Gdolé Israël, le Baal Shem Tov, toute cette Chassidut qu'ils nous ont donnée, c'est être capable d'être au niveau d'aimer celui qui n'a rien à t'apporter. Il n'attend rien de lui. Tu le reçois les bras ouverts, il te crache dessus. Il te parle dans ton dos. Combien de fois de gens pourraient dire ici, mais je l'ai déjà, comme ça il parle derrière moi. Tu vois pas qui c'est celui-là, c'est un radin, ça, mais crève. Et qu'est-ce que tu dis? Baruch HaShem, malgré tout, je continuerai. Avec qui on vit ça? Qu'avec nos enfants. Il n'y a pas plus ingrat au monde que les enfants. Tout est indu. Tout est indu avec eux. Tu peux leur donner ce que tu veux, tu peux monter jusqu'à Jérusalem, garder les enfants de ton fils. C'est indu. Bah, c'est papy, mamie, ça va, hein, on vous a demandé aussi, non hein. Mais attends, d'accord, mais c'est du temps, on est fatigué, c'est l'aller-retour. Rien n'est pris en compte. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on les aime. Et que même s'ils nous donneront rien, rien que d'être appelé papa, c'est un prix qu'on est prêt à payer. Parce qu'on entend le mot papa, parce qu'on entend le mot maman. Avinu sheba shemaim chai vekayam. Et cette demande du Créateur du monde, elle exige un peu plus de gratitude que ce que nous demandons. C'est pour ça que si tu veux trouver Dieu, tu viens en Israël, tu le trouves. Dieu est en Israël. Tu veux trouver Dieu, il est dans chaque juif. Apprends à aimer chaque juif et être au-dessus de sa bêtise humaine. C'est dur, hein, je vous dis franchement, j'y arrive pas tout le temps. Je suis franc. J'y arrive pas tout le temps. Il y a vraiment des gens, la vérité, je me demande ce qu'ils font sur terre. Ce serait peut-être mieux au Guéhinam. Mais vraiment! Non, mais vraiment, les gens sont devenus rois à lèvres. Il y a des gens qui ont des cœurs de pierre. Même, je dirais plus, ça, c'est une ancienne maladie. Des gens qui n'ont plus de cœur du tout. Pas de problème de faire du mal, de mentir, de... Quel lachonara, mozi shemrav, tzach l'arzor bitchouva rabotai. Faut faire teshuva. Faut faire teshuva. Vraiment teshuva, au moins là-dessus. Et c'est pas la redingote et le kissou sur la tête qui va te changer plus que ça, si tu n'as pas changé toi-même. Vous savez, il y a deux sortes d'or. Il y a l'or pur et il y a le plaqué or. Les habits, c'est le plaqué or. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous les habits. Tov, Yeshuot, Venechamot, Ahava, Verva, Shalom, Vereout. Ce qui est Bezrat Hashem, la Gdil Torah, la Dira. C'était un shiur pour moi intéressant à partager sur justement la présence divine ou pas parmi Bezrat Hashem, les enfants d'Israël. Et dans les conditions, on a vu ici que quoi? Eh bien, que des fois, le Créateur du monde n'aura plus d'autre choix que de se dévoiler. Il s'est dévoilé par le déluge. Dans l'eau bouillante, il s'est dévoilé avec la tour de Babel, il s'est dévoilé avec les destructions de Sodome et Gomorre, mais il s'est aussi dévoilé aussi avec le Har Sinaï, les 10 plaies d'Égypte, la mer Rouge, le Kivush Eretz Israël avec Yoshua Bin Nun. Il s'est dévoilé aussi dans beaucoup de bonnes choses. Et la question, c'est justement que si Dieu reste caché, c'est parce qu'il demande tout simplement à être dévoilé par notre libre arbitre, notre sagesse et notre émouna.
Oui. Est-ce que Dieu se révèle ou se dévoile à travers des masques chez les goyim?
Bien sûr.
Ils ont des lieux, ils ont une relation avec Dieu aussi.
Tout à fait. Dieu se dévoile aussi à travers les non-juifs, puisqu'on le dit dans le Hallel, Allelu kol goyim shebachu kalomim ki gavar nuchazo. Je dirais même plus que ça encore, ceux qui voient plus Dieu chez nous, c'est plus les goyim qui voient Dieu chez nous que nous, nous voyons chez nous. En tout cas, c'est ce que dit le roi David dans les Tehillim. Baruch Adonai le Olam, Amen.